Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Bonsoir, nous sommes le vendredi 15 juin, vous êtes bien sur FPP dans l'émission Mode d'emploi, émission hebdomadaire d'AC. Nous accueillons ce soir dans notre émission Sylvette Usanchoma, représentante du SNU ANPE et de la commission femmes de ce syndicat. Il y a autour de moi également Yvonne et Catherine de AC et donc moi je suis Odile d'AC du collectif national pour les droits des femmes. Nous allons parler ce soir de la NPE, des restructurations actuelles dans les services de l'emploi et ensuite, bien entendu, nous allons parler du chômage et de la précarité des femmes. D'abord sous un angle historique, puis sous un angle des politiques actuelles. Nous parlerons également des états généraux des chiffres du chômage qui se sont tenus le 29 mai dernier. Car une forte sous-évaluation du nombre des chômeurs et des chômeuses a été mise en évidence par ces états généraux des chiffres du chômage. Et nous rappelons également à nos auditeurs qu'ils peuvent écouter les dernières conférences de presse du collectif ACDC, les autres chiffres du chômage, dans notre site www.modes-d-emploi.net. Alors, nous allons tout de suite commencer par parler des changements intervenus depuis peu dans les statuts de l'Agence nationale pour l'emploi et qui comportent également une filialisation ou une création de sociétés privées qui pourraient contribuer au placement des chômeurs.
Alors, oui. En fait, tout découle, ou beaucoup de choses en tout cas, découle de la loi de programmation pour la cohésion sociale, dite loi Borloo, du 19 janvier 2005. Donc cette loi a d'abord élargi le service public de l'emploi. Donc le service public de l'emploi, je rappelle, il comprend le placement, il comprenait initialement le placement, l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Avec les services ministériels chargés de l'emploi, l'ANPE, l'AFPA. Et cette loi y adjoint la CEDIC, donc faisant rentrer dans le service public de l'emploi l'indemnisation des chômeurs. Il y a ensuite un deuxième cercle de ce service public de l'emploi qui est les collectivités territoriales et leurs groupements. Et puis un troisième cercle, et ça c'est la grande nouveauté, qui est les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Donc, le fait que ces organismes privés existent est vraiment la grande nouveauté de cette loi. Remet en cause finalement l'ordonnance du 24 mai 1945 qui avait supprimé ces services privés de placement. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau et très fort sur le plan symbolique, puisque durant tout le 19e siècle, le mouvement ouvrier s'était battu pour leur suppression et pour demander leur remplacement par les bourses du travail. Pendant les très courts temps de la Révolution de 1848 et la Commune de Paris, ils avaient été interdits et remplacés par des bureaux municipaux de placement. Et puis ils étaient revenus. Et donc ils avaient été supprimés à la Libération en 1945. Donc réouvrir la possibilité à ces services d'exister, c'est vraiment un symbole de régression sociale assez fort. Alors, cette loi, elle s'accompagne aussi, toujours la loi Borloo, elle s'accompagne également de la création de maisons de l'emploi, dont le statut n'est pas encore très, enfin, n'est pas forcément très défini et très homogène partout, enfin. Et d'un durcissement du contrôle de la recherche d'emploi. Et elle énonce le fait que l'ANPE puisse créer des filiales et détenir des participations. Dans la continuité de cette loi, il va y avoir donc des décrets d'application. un premier décret d'application qui est celui du 2 août 2005 sur le suivi de la recherche d'emploi, qui durcit le contrôle de la recherche d'emploi et qui oblige chaque demandeur d'emploi, lors de son inscription, à avoir un projet personnalisé d'accès à l'emploi. Mais ce projet personnalisé d'accès à l'emploi est établi non pas par lui-même, mais par l'ANPE ou un autre organisme du service public de placement, du service public de l'emploi. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez fort. C'est comment peut-on établir un projet pour une personne ? Comment l'institution peut-elle établir un projet pour une personne ? Ce décret donc durcit le suivi de la recherche d'emploi, les contrôles des chômeurs, et met en place toute une panoplie de sanctions pour les demandeurs d'emploi qui contreviennent à leurs obligations. Un autre décret, plus récent, celui du 27 mars 2007, qui autorise la création de filiales pour l'ANPE, ou plus exactement, qui met en place cette possibilité qui était stipulée dans la loi. Et donc, peuvent être filialisés les services internes de l'ANPE, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que notre service de formation interne soit filialisé, que notre service juridique soit filialisé, et puis aussi la vente de services aux entreprises, comme le recrutement par simulation, par exemple, ou des opérations aussi de recrutement à l'étranger. Donc ça, c'est des services qui peuvent être filialisés et qui peuvent devenir des services payants. Avec dans cette loi en plus quelque chose qui est assez qui est terrible, qui est l'impossibilité à l'ANPE, c'est une loi d'application de la concurrence, donc l'impossibilité à l'ANPE de privilégier ses propres services par rapport à des services équivalents. Donc c'est vraiment une mise en concurrence. Et puis un dernier décret qui est important aussi, qui est le décret du 14 mai 2007, juste après l'élection présidentielle, mais encore signé par le Premier ministre de l'ancien gouvernement, qui est sur la création d'organismes privés de placement, qui rend extrêmement facile leur création.
Donc, moi, je ferai quelques petites observations quand même. C'est que par rapport à la question de l'égalité de traitement pour les usagers d'un service public, qu'est-ce qui va se passer, notamment, enfin, si en réalité il y a un certain nombre de services qui sont comme ça externalisés, bon, il se peut très bien qu'il n'y ait plus d'égalité finalement, notamment entre les régions, et puis aussi l'État, la participation au financement de l'ANPE de l'État va diminuer.
Alors, tout à fait, la participation de l'État au financement de l'ANPE a de fait déjà diminué, hein, depuis le PAR et depuis 2001, hein, il y a une participation de l'assurance chômage au budget de l'ANPE, et puis il y a aussi une participation de collectivités territoriales comme les conseils généraux par exemple. Et là aussi, c'est autant de mise en concurrence de l'ANPE avec des services privés. Mise en concurrence qui n'est pas forcément d'ailleurs une mise en concurrence tout à fait loyal, si on peut dire, puisque un accompagnement par l'ANPE coûte de l'ordre de 750 euros et un accompagnement par un organisme privé, c'est entre 4 500 et 5 500 euros.
Mais alors ça, c'est extraordinaire parce qu'en fait, ça revient beaucoup plus cher.
Oui, tout à fait.
Donc, pour... pour l'ensemble des citoyens de ce pays, ça veut dire qu'ils risquent de payer davantage d'impôts finalement pour payer des gens qui vont s'occuper du suivi des demandeurs d'emploi. Et en fait, ce qui est assez inquiétant quand même, ces sociétés, ces prestataires de la NPE, pour être rentables, seront obligés de faire du placement de chômeurs à tour de bras, alors, et de les obliger à accepter n'importe quel type d'emploi.
Oui, ce n'est pas la sous-traitance n'est pas une sous-traitance de la NPE, mais une sous-traitance de l'UNEDIC. Hein. C'est l'UNEDIC qui sous-traite ce placement. Effectivement, enfin, c'est une mise en concurrence qui interroge, parce que ces organismes ne sont pas forcément tenus, comme l'est le service public de l'emploi, à l'égalité entre les citoyens. Donc ça, c'est... En termes d'égalité, c'est un problème. Et puis les coûts ne seront pas, ne sont pas des coûts forcément sur les citoyens et sur l'impôt, mais des coûts de cotisation de l'assurance chômage. En fait, l'argent provenant des cotisations sociales, et qui devrait normalement servir à l'indemnisation des chômeurs, est utilisé là sur ces organismes.
Catherine ?
Oui, nous, en tant qu'association de chômeurs AAC et les autres associations de chômeurs, on dénonce ces choix de l'UNEDIC, c'est-à-dire prévoir une grosse dépense pour la privatisation de la recherche d'emploi au détriment de la part de la formation professionnelle qui s'appauvrit de plus en plus d'année en année.
Alors moi, ce que je me demande aussi, c'est quelles vont être les conséquences pour les salariés de la NPE, parce que étant donné qu'il y a, enfin, dans le statut de la NPE, il y a, paraît-il, une clause de plan social qui sous-entend la possibilité de licenciement économique. Enfin, l'emploi, les salariés de la NPE, en fin de compte, sont des contractuels de l'État, mais ils ne sont pas,
nous ne sommes pas fonctionnaires.
Pas à l'abri, quoi.
Nous ne sommes pas fonctionnaires.
Donc là, est-ce que, par exemple, les évolutions qui vont intervenir d'ici quelques mois pourraient représenter des risques pour les salariés?
Alors c'est certain que les évolutions, il y a encore des évolutions donc qui sont dans les tuyaux et qui sont prévisionnelles, comme le projet de fusion ANPE UNEDIC qui a été annoncé par Sarkozy pendant sa campagne présidentielle, et qui pour lui a l'objectif annoncé, c'est de réduire les effectifs, une réduction des effectifs. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Une réduction d'effectifs. Alors, nous pouvons être licenciés, effectivement, mais même sans licenciement, même si c'est uniquement sur des départs à la retraite que ça joue, ou encore sur d'autres plans, nous avons près de 25% de nos collègues qui sont des collègues précaires.
Ouais. En contrat
à durée déterminée,
contrat
d'avenir, en temporaire aussi. Nous craignons pour leur poste. Mais même si ça ne jouait pas sur ces postes, enfin sur l'ensemble de ces postes pour nos collègues précaires, bien sûr, nous demandons leur intégration, hein, leur titularisation. C'est quelque chose que nous demandons constamment, régulièrement. Mais même si cette réduction portait sur les départs à la retraite, ça serait de toute façon inquiétant, puisque nous sommes déjà soumis à une très forte intensité de travail et à des conditions de travail déjà extrêmement dégradées. Hein. Et il faut savoir qu'en France, si on totalise le personnel de la NPE, celui de la CEDIC, celui des missions locales, on a en tout environ 50 000 personnes qui travaillent à l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Alors qu'en Grande-Bretagne et en Allemagne, pour des nombres à peu près équivalents de demandeurs d'emploi, les effectifs sont respectivement de 70 000 et de 75 000 professionnels de l'emploi. Donc, que se passera-t-il effectivement si la fusion réduit encore ses effectifs ? Et puis, bien sûr, il y a autre chose, un autre aspect de cette fusion qui nous inquiète beaucoup, qui est quel effet aura-t-il sur le service public, si on sait que seulement 47,2% des chômeurs inscrits à la NPE étaient indemnisés, donc là, c'était au 30 juin 2006. Hein. Mm-hmm. Et donc, les 53% de chômeurs non indemnisés, quelle garantie d'égalité de traitement vont-ils avoir?
Alors on dit effectivement, ce sont des chiffres qui sont très frappants, qu'un salarié de la NPE suit une centaine de chômeurs. Il peut même dans certaines localités suivre jusqu'à 380 personnes. Bon, alors qu'est-ce que je vais demander à Catherine, ce qu'elle en pense au niveau le suivi, ce qu'on a appelé le suivi mensuel personnalisé. Est-ce que c'est très sérieux? Comment est-ce que c'est fait? Qu'est-ce que ça veut dire pour les chômeurs?
Le suivi mensuel, pour autant qu'on ait on a des retours, des informations qui proviennent à nos permanences parades que l'on fait qu'on tient toutes les semaines et dans toutes les régions on a les mêmes répercussions d'informations, à savoir que le portefeuille, puisque on appelle ça un portefeuille, chaque prospecteur placier a un portefeuille de demandeurs d'emploi dont il est chargé, et selon les endroits, c'est vraiment on remet en doute les compétences des employés, parce qu'on leur donne des attributions d'un nombre de chômeurs qui sont disproportionnées avec ce qu'ils peuvent tenir comme ils peuvent pas faire leur travail sérieusement, c'est pas possible. Parce que quand effectivement tu dis que ça peut atteindre plus de 300 ou plus de 200 contrôles par mois, contrôles mensuels, il est prévu aussi que ces contrôles, quand le prospecteur placier a vraiment trop un portefeuille trop étendu, eh bien que ça se passe par téléphone, entre autres, par téléphone.
Oui.
Il ne peut pas faire autrement, le prospecteur placier. D'abord, les locaux de la NPE ne sont pas extensibles. Et en plus, le prospecteur placier, c'est un être humain qui travaille que 7 heures par jour. Donc, il ne peut pas...
C'est complètement invraisemblable, en fin de compte, de faire un suivi mensuel sérieux avec autant de... Donc, il y a des sous-effectifs, déjà à l'heure actuelle. Donc,
tout à fait. On a quintuplé le nombre d'entretiens obligatoires, hein, parce que les autres entretiens existent. On n'a rien enlevé des autres charges de travail. Hein. Il y a toujours la relation entreprise, il y a toujours une activité administrative qui augmente par ailleurs. Et les effectifs, pendant ce temps-là, n'ont augmenté, eux, que de 12%.
Oui.
500% d'augmentation du travail de réception et 12% d'augmentation des effectifs. Et les locaux, eux, n'ont pratiquement
pas changé.
Se sont très, très peu étendus. Alors, les conseillers sont vraiment mis dans une situation invraisemblable où ils doivent recevoir les personnes ou au moins... faire quelque chose, parce que le système est fait de telle manière qu'à partir du moment où un demandeur d'emploi est entré dans le suivi mensuel, tous les mois, à échéance régulière, s'il n'est pas convoqué, s'il ne peut pas venir, il recevra une lettre d'avertissement l'informant de sa prochaine radiation s'il ne se manifeste pas. C'est vraiment un système, un espèce d'engrenage comme ça, d'automatisation informatique qui est derrière. Et qui
entraîne un grand nombre de radiations.
Un grand nombre de radiations, une pression terrible et sur sur les conseillers et sur les demandeurs d'emploi, un certain nombre de désinscriptions, c'est-à-dire de personnes qui, une fois radiées, vu les contraintes qu'elles ont, ne vont pas se réinscrire par la suite. Et ça d'autant plus que ça s'est accompagné d'une nouvelle sectorisation des agences. C'est-à-dire qu'avant, les agences locales pour l'emploi recevaient des demandeurs d'emploi qui habitaient à proximité. Et il y a une nouvelle réorganisation qui se met en place peu à peu dans les différentes régions où les agences qui ont des équipes spécialisées par secteur d'activité reçoivent désormais les demandeurs d'emploi en fonction du métier dans lequel ils sont inscrits et donc du secteur d'activité dans lequel ils se trouvent. Mais parfois, ça oblige les demandeurs d'emploi à faire 30 km pour se rendre à leur agence.
Alors Catherine, est-ce que tu voudrais donner davantage d'explications, par exemple sur la question des radiations? Bon, elles sont très nombreuses aujourd'hui. Pour quelles raisons les chômeurs sont-ils radiés? Y a-t-il des recours possibles? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça?
Ben, les radiations, elles se sont effectivement beaucoup amplifiées dès le début. D'ailleurs, nous, dès la fin de l'année 2005, et puis il y a même eu des rappels à... on sait que la DDTE au niveau régional, notamment en Île-de-France, a dû revoir un petit peu les choses, parce qu'il y a eu une montée en puissance dès la fin 2005, et puis donc il y a eu beaucoup, ça a eu pour effet notamment de basculer les gens dans le RMI. Il y a eu une montée en puissance généralisée sur toute la France. Les gens, on a bien vu le nombre d'inscriptions au RMI qui a survolté.
Oui, parce qu'il y a des gens qui ne touchaient plus les ACEDIC, ou alors qui ne pouvaient plus même toucher.
Qui étaient radiés carrément, parce qu'il y avait les contrôles étaient très lourds au niveau des. Notamment, ce qui a le plus pénalisé les demandeurs d'emploi, c'est la réponse à convocation.
Non réponse à convocation.
Et si le demandeur d'emploi, parce que au début les courriers étaient pas très clairs, c'est le moins qu'on puisse dire, ou alors les envois de courriers ne se sont pas effectués en recommandé. Nous, on a dû faire un rappel à l'ordre et on a demandé que les courriers soient effectués en recommandé. Les gens ne recevaient pas le courrier à temps. Et puis, ils ne comprenaient pas toujours le courrier, les contraintes que leur fixait le courrier. C'est-à-dire qu'ils avaient un temps déterminé pour répondre. C'est généralement, il faut réagir dans les 10 jours. On a dû aussi faire des rappels pour demander que les courriers soient plus clairs.
Alors très souvent, ce ne sont pas des radiations, mais ce sont
ce
qu'on appelle aussi absence au contrôle, c'est-à-dire en fait simplement le fait de ne pas renouveler son inscription, de ne pas actualiser sa situation mensuellement, peut-être par oubli simplement.
Il arrive que les gens se trompent 2 jours pour une convocation. Il y a des oublis humains. Et puis, il y a effectivement, il y a aussi le motif de recherche d'emploi qui a été insuffisant, qui a été invoqué.
Recherche d'emploi insuffisante, oui. Et on peut être radié également au bout du deuxième refus d'une offre d'emploi?
Pas encore.
C'est prévu. Il en est fortement question, et M. Sarkozy a axé. C'est un des points qu'il a soulevé dans sa campagne, puisque les chômeurs, il disait que les chômeurs français étaient beaucoup mieux traités que les chômeurs britanniques. Il a mis en concurrence le traitement.
Yvonne?
Ah, voilà, justement, pour enchaîner ce que tu viens de dire, Catherine. En Angleterre, le chômeur est obligé de faire preuve de recherche de travail deux fois par semaine. Donc, il faut qu'il passe au Job Center, donc la NPE, tous les 14 jours, et puis avec quatre recherche d'emploi, donc oui. Deux par semaine. Donc, ça, c'est le minimum proposé par la loi.
Par semaine ou par mois ?
Par semaine.
Ah oui.
Par semaine.
Voilà,
oui,
donc,
oui.
En l'espace de deux semaines, il doit pouvoir témoigner de quatre recherches d'emploi.
Oui, oui. D'accord. Et surtout quand il voit son conseiller tous les 14 jours. Hein.
Alors, il y a aussi une autre mesure. C'est, on avait déjà le profilage des chômeurs en trois catégories plus ou moins employables. Et on aurait peut-être aussi maintenant un dossier unique du demandeur d'emploi qui regrouperait les différents dossiers de la NPE, des ACIDIC.
Oui. Oui, le dossier unique. Alors, depuis, enfin, ça fait déjà longtemps que ANPE et ACEDIC ont un dossier quand même pour partie commun. Depuis l'informatisation des dossiers, c'est-à-dire depuis le début des années 80, 83 ou 84. Mais là, le dossier unique du demandeur d'emploi autorise la lecture des informations par ces institutions plus d'autres, puisque des organismes privés de placement, sous réserve qu'ils aient une convention, pourraient aussi accéder à ce dossier. Ce qui pose quand même des problèmes
De confidentialité.
C'est quand même quelque chose d'assez...
Et alors, en ce qui concerne les luttes de salariés de la NPE, par exemple, Catherine, toi, tu avais un exemple en ce qui concerne une personne de Millau, je crois, qui a été...
C'est-à-dire qu'on a eu effectivement l'information que... Il y a beaucoup de précaires à la NPE. On en a reçu au moins une à Permanence Parade qui était, elle, ce qu'on appelle saisonnière, puisqu'elle travaillait 6 mois de l'année à la NPE depuis au moins 2 ans et que... elle avait des problèmes et elle aurait bien voulu que ces conditions de travail cessent. Mais on a eu récemment une camarade de Millau qui a été soutenue par les syndicats SNU-ANPE et SUD-ANPE et qui, elle, travaillait depuis deux ans et demi en contrat d'avenir et qui était sur le point d'être licenciée à la fin avril et qui a lu... Non, fin mai, pardon. Et qui avait prévu qui avait tenté de se faire embaucher auparavant, qui avait passé des concours et qui attendait avec une grande angoisse la fin de son contrat, mais elle s'était dit je vais lutter pour que ces types de contrats cessent parce que vraiment la NPE qui est un organisme qui normalement s'occupe des chômeurs, donc qui a la primeur du placement des chômeurs normalement, sauf malgré toutes les remises en cause de son statut et de ses attributions, a dans son sein effectivement 25% de précaires. Et donc cette camarade a lutté et s'est entourée des syndicats de sa région et elle avait même le soutien de sa hiérarchie, mais elle a dû menacer de faire une occupation de la NPE pour qu'on réétudie ses possibilités d'intégration. Et encore là, elle n'est pas encore intégrée tout à fait. On vient de lui proposer un nouveau contrat de 3 mois qu'elle a accepté malgré tout, en lui laissant supposer que là, vraiment, elle allait sans doute être intégrée après les vacances.
Alors, il nous reste encore à parler un petit peu de la question de l'égalité professionnelle. Quelle est la place exacte des femmes dans les services de la NPE ?
Alors, les femmes sont nombreuses à la NPE, puisqu'elles représentent 72% des salariés en CDI, 77% des salariés en CDD, et 91% des temporaires, c'est-à-dire les personnes qui ne peuvent travailler que 6 mois, effectivement, dans l'année, qui existent dans toute la fonction publique, 93% des contrats aidés, contrats d'avenir compris. Donc on voit leur surreprésentation au fur et à mesure de la précarisation des emplois. Elles représentent aussi 75% des emplois en bas de l'échelle des qualifications rémunération, mais 43% des emplois de cadre intermédiaire et 20% dans les cadres supérieurs, c'est-à-dire les directeurs régionaux, par exemple. Et oui. Et les écarts de rémunération donc, sont en moyenne de 14% entre les femmes et les hommes. Et à emploi égal, donc ces deux chiffres sont en données corrigées des temps partiels, hein, et à emploi égal, ça peut aller jusqu'à 10% d'écart. Donc, effectivement, la situation des femmes à la NPE est quelque chose qui nous préoccupe. Et donc, nous avons un secteur femmes dans le syndicat qui a 3 axes de travail. L'égalité professionnelle des femmes et des hommes salariés de la NPE. Donc, vous voyez qu'il y a du travail à faire. La présence des femmes dans le syndicat aussi. Donc, ça, c'est un travail plus sur la prise de parole des femmes dans les réunions syndicales, sur l'accès des femmes aux responsabilités syndicales. Par exemple, nous, dans nos statuts, notre bureau national a au moins 50% de femmes. Et puis la sensibilisation de notre organisation aux inégalités professionnelles. Et enfin, le troisième axe, c'est une réflexion sur l'emploi des femmes et sur nos pratiques professionnelles, donc concernant l'aide à la recherche d'emploi des demandeuses d'emploi et un travail pour les améliorer. Donc ça, suivant les régions, il y a des constructions d'outils, d'annuaires, des concertations avec les différents acteurs des bassins d'emploi, des interventions auprès des conseils régionaux.
Voilà. Eh bien, nous allons faire une petite pause musicale maintenant. C'était Angélique Ionatos, Mia Thalassa. Eh bien, nous reprenons cette émission. Nous sommes ce soir en compagnie de Sylvette Usan-Choma, du SNU ANPE. Et donc, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi. Alors, nous allons reprendre maintenant cette émission sur la partie historique qui concerne le travail des femmes et le chômage des femmes. Et nous allons voir que les femmes ont été assez peu prises en compte pendant très longtemps par les institutions de l'emploi. Et notamment jusqu'à peu près vers les années 50, on a l'impression souvent quand on lit des bouquins d'histoire que les femmes n'existaient pratiquement pas. Alors, est-ce qu'elles travaillaient, les femmes? On a l'impression que, enfin bon, elles n'étaient pas considérées en tout cas comme ayant une activité professionnelle.
Tout à fait. Bien que, alors, les femmes ont toujours travaillé. D'ailleurs, c'est le titre d'un livre de Sylvie Schweitzer. Les femmes ont toujours travaillé, mais leur participation à l'activité économique a souvent été déniée, occultée, que ce soit dans les représentations sociales quotidiennes ou dans les rapports officiels. Et ces rapports, ils contribuent ensuite à l'institutionnalisation des questions sociales, c'est-à-dire à la manière dont on se représente le monde dans lequel on vit. Alors, le travail des femmes, il est rendu invisible d'abord par la ségrégation spatiale, c'est-à-dire des lieux différents, des lieux de travail différents. En particulier, c'est le travail à domicile pour tout le... par exemple, le travail à façon des étoffes et de l'habillement jusqu'au début du XXe siècle. Il est aussi rendu invisible par le langage. Marina Jagello a écrit un très joli petit livre qui s'appelle Le sexe des mots, et on voit par exemple tous les termes de métier où il n'y a pas d'équivalent féminin. Et puis il est rendu invisible également par les statistiques officielles. Le recensement, par exemple, de 1896 ne prend en compte l'activité professionnelle des femmes qu'en ce qu'elles exercent une activité distincte de celle de leur mari. Alors ça, c'est aussi une des conséquences du Code civil qui, depuis 1804, avait minorisé la femme mariée, la femme célibataire ou veuve conservait son autonomie, sa marge d'action. La femme mariée, elle, était totalement dépendante et tributaire de son mari et ne pouvait pas occuper un emploi, par exemple, ni gérer son argent sans son accord. Alors, le travail des femmes est invisible et le chômage, leur chômage l'est également. Robert Salet et Bénédicte Reynaud, par exemple, ont écrit dans l'invention du chômage, deux formes de chômage caractérisent la fin du XIXe siècle. Le chômage masculin est proche du modèle de représentation du statisticien et le chômage féminin ne l'est pas. C'est-à-dire que dans la construction que donne le statisticien de la réalité du chômage, c'est fait de telle façon que les femmes disparaissent. Alors pourquoi disparaissent-elles ? Parce que dans cette construction, le chômage est défini comme une suspension imprévisible du travail sous condition de l'exercice d'une profession et de la dépendance physique à l'égard d'un établissement. Alors, en sont exclus les personnes qui travaillent habituellement à domicile et qui ne figurent pas sur la liste des salariés des établissements qui leur sous-traitent le travail, ce qui est très très fréquent à cette époque-là, ainsi que celles qui travaillent dans l'entreprise familiale. Et donc dans une France qui était une France rurale, une grande partie des femmes, par exemple, dans le secteur de l'agriculture, étaient ainsi invisibles. Ne sont pas non plus comptabilisées les femmes qui n'exercent plus leur profession initiale. Elles sont comptabilisées à ce moment-là comme sans profession, ou celles qui n'ont plus d'emploi depuis plus d'un an. Et donc là aussi, les activités familiales peuvent faire que des interruptions existent, et donc ces femmes ne sont plus comptabilisées comme chômeurs.
Puis il y avait aussi peut-être beaucoup de femmes qui faisaient des petits métiers qui leur permettaient de gagner un tout petit peu d'argent, quoi, les blanchisseuses, les marchandes ambulantes, les réparatrices de vêtements, tout ça. Enfin, on les comptait pas parce que c'était du travail qu'elles faisaient de façon tout à fait isolée et informelle. Oui, en fin
tout
de compte.
À fait. Les isolées ne sont pas rattachées non plus à un établissement. Et puis donc effectivement une grande partie de ces femmes ne sont pas comptabilisées, et puis il y a aussi l'imprévisibilité du chômage qui est dans cette définition, et donc ça exclut de la catégorie de chômeurs les périodes non travaillées du fait d'un travail saisonnier de la morte saison. Et donc finalement ça dessine un noyau stable de salariés qui sont davantage des hommes qui travaillent dans les établissements, et ce que Robert Salet appelle une population flottante qui est plus souvent féminine et qui travaille à domicile et dans les moments de forte activité. Par exemple, les lingères, elles travaillent seulement de novembre à mars. Et donc, elles ne sont pas comptabilisées dans leur période de non-activité. D'ailleurs, il y a une phrase d'une enquête sur le travail à domicile dans l'industrie de la lingerie qui dit « Elles ne sont pas comptabilisées lorsque le travail chôme. » C'est le travail qui chôme dans ces périodes de morte saison. Mais en même temps, elles ont pourtant un lien de dépendance forte avec l'entreprise, puisque souvent elles ont le matériel qui leur est amené, enfin qui appartient à l'entreprise. Et on leur amène des commandes auxquelles elles doivent répondre quand il y en a.
Et alors, elles étaient... Enfin, moi, j'ai lu quelque part qu'il y avait 5 professions qui regroupaient 90% des femmes, celles qui travaillaient. Donc, elles étaient dans 5 professions. Mmh. Alors, il y avait les domestiques, les agricultrices, les commerçantes, les ouvrières du textile et la confection.
Tout à fait.
C'est tout. Et ça s'arrêtait là.
Tout à fait. Oui, oui. Tout à fait.
Donc, le travail était extrêmement segmenté, en fin
de compte. Très segmenté. Et puis donc, avec des lieux différents aussi. Hein. Il y a une spatialité de l'emploi qui est différente, qui fait que les femmes sont moins souvent dans les ateliers qui sont les lieux aussi où le mouvement ouvrier se constitue, hein, où les solidarités se créent. Mais elles y sont moins souvent. Puisque ce travail en atelier pour les femmes est entaché du soupçon d'immoralité. Alors l'immoralité, c'est ce qui construit la ségrégation spatiale. Hein. C'est l'argument pour que cette ségrégation spatiale existe. Elle existe d'ailleurs aussi bien du côté de l'école. Hein. C'est la même chose. Les filles et les garçons ne vont pas dans les mêmes écoles et n'ont pas d'ailleurs les mêmes programmes. Et puis, on va retrouver dans les services privés de placement, enfin, on va retrouver dans les services de placement cette même ségrégation. D'abord, du côté des organismes, des services privés de placement qui, à ce moment-là, existent, sont très nombreux et qui ont une organisation par métier. Et qui conduit de fait à cette séparation des sexes. Il y a des métiers masculins et des métiers féminins qui sont généralement moins qualifiés ou en tout cas considérés comme tels et qui sont moins payés, hein, puisque ce n'est que finalement en 1945 que disparaîtra la notion de salaire féminin, c'est-à-dire la tarification différente pour un même travail.
Qui est jugé quelque chose de tout à fait normal, en fin de compte.
Ah oui, tout à fait. Il y a des tas d'arguments qui étaient développés. Les femmes étaient moins endurantes, elles étaient moins fortes, donc il fallait un seul homme, il fallait employer 2 femmes. Elles étaient...
Des enfants.
Oui, c'est bien sûr.
Moins efficaces.
Elles étaient moins efficaces. Oui. Et puis, alors, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui est construit, qui est la nature de la femme, qui est de faire des enfants et de s'occuper de ses enfants principalement.
Alors, tout ça explique aussi peut-être qu'il y a une ségrégation des emplois entre les hommes et les femmes, on peut dire, qui a existé pendant des siècles et qui semble avoir, dès les débuts du fonctionnement des services de l'emploi, avoir été intégrée dans leur fonctionnement.
Oui. Alors effectivement, il y a une période extrêmement intéressante dans l'histoire du travail des femmes, qui est la période de la guerre de 14, où les hommes étant mobilisés, elles vont être obligées d'exercer des métiers qui sont d'habitude les métiers masculins. Elles vont travailler dans la métallurgie, dans les transports, etc. Et c'est à ce moment-là aussi qu'un service public de placement se met en place vraiment sur le plan national avec des offices départementaux de placement. On va trouver dans le souci de conserver cette ségrégation dans ces offices départementaux. Et en général, donc, quand ils sont décrits, ils ont des entrées et des salles d'attente différentes pour les hommes et pour les femmes. Généralement aussi une entrée différente et une salle d'attente différente pour les employeurs.
Oui, c'est vraiment chacun de son côté.
Chacun de son côté.
Alors, les choses quand même ont commencé à changer un petit peu. Hein. On voit que, par exemple, à partir de 1946, les femmes d'agriculteurs ont été considérées comme... actives professionnellement, mais on les a mis dans une catégorie d'aide familiale. Ouais. Après, on a eu donc, à partir des années 60, les femmes sont rentrées massivement dans le monde du travail salarié. Et 1965, c'est une date charnière puisque les femmes ont eu le droit de travailler à ce moment-là sans autorisation du mari. Elles ont pu ouvrir un compte en banque à leur nom. Elles ont pu aussi bénéficier, hein, de des indemnités de chômage, donc c'est à partir de 1965, à la même période. Et on peut dire que depuis ce temps-là, l'activité salariée des femmes n'a pas cessé d'augmenter, puisqu'elle a doublé. Elle était en 1962, on avait 41,5% de femmes qui travaillaient actives entre 25 et 49 ans, et on en a en 2005 81%. Donc, mais ce qu'on peut dire, il subsiste énormément d'inégalités, puisque le taux d'emploi réel des femmes reste assez faible, étant donné que si on raisonne en termes d'équivalent temps plein, on n'a que 50% d'activité des femmes. Donc leur activité n'est pas à temps plein, du moins en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays
tout à fait.
Européens. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ajouterai une chose. Il est devenu tout à fait illégal de présenter une offre d'emploi de façon sexuée. Hein, alors que jusqu'à une période finalement assez récente, il était tout à fait courant de proposer un emploi en disant qu'il s'agissait d'un emploi pour homme, pour un homme ou pour une femme.
Tout à fait. Tout à fait. Le changement intervient finalement avec la loi Roudy.
Hein. Voilà.
C'est-à-dire 13 juillet 1983, c'est pas si vieux
voilà.
que ça.
Voilà.
Donc, c'est depuis ce temps-là que sur les offres, par exemple, de l'ANPE, il est marqué pour chaque offre d'emploi homme-femme.
Oui. Mmh. Et c'est la loi Roudy aussi qui parle, qui dit qu'un travail de valeur équivalente doit avoir le même salaire que.
Tout à fait. Oui.
Voilà.
Mais est-ce que c'est difficile, dans une description d'un job, d'éviter l'emploi de masculin, féminin, parce que c'est très révélateur?
Tout à fait. Donc, oui, c'est extrêmement difficile. C'est oui. vrai que on voit malgré tout encore beaucoup plus d'offres d'hôtesse d'accueil, par exemple. Alors qu'on devrait mentionner agent d'accueil de façon neutre ou mentionner hôte et hôtesse d'accueil. Hein, ça ne se fait pas couramment.
Donc il faut transformer les noms de secrétaire et forcément c'est toujours féminine.
Ou quand c'est un secrétaire, à ce moment-là, c'est qu'il a des responsabilités. D'autres fonctions qu'une secrétaire.
Oui, bien sûr.
C'est vrai que c'est... Voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y a un travail à faire par exemple, même en interne, même à l'ANPE. Très couramment, on a fait remarquer récemment encore à notre direction qu'il y avait un recrutement de conseillers. On a dit, ah bon ? De conseillers uniquement ? 72% de femmes.
Oui, c'est des conseils.
Oui,
évidemment. D'accord. Bon, bah, je crois que nous allons faire une pause musicale.
Yensa, l'éclame ma kfèche, l'aise mon qu'ta' l'ouidane, l'adil ma yiswèche qui rib l'mizane, yannas l'jazayr gatta ou l'chams l'gharbane.
C'était la musique du collectif 20 ans Barakat. Vous êtes dans l'émission Mode d'emploi sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Donc, nous reprenons cette émission, mais j'ai une petite annonce à vous faire, car il y aura les 5, 6 et 7 juillet un festival de la radio libre Fréquence Paris Pluriel pour soutenir cette radio. Et ce festival aura lieu au métro Porte de Paris, salle de la ligne 13, 12 place de la Résistance, métro Porte de Paris. Donc, les 5, 6 et 7 juillet, nous vous appelons à venir très nombreux pour soutenir cette radio.
20h30.
Alors, nous allons maintenant reprendre cette émission. Donc, cette émission qui est exceptionnellement va durer jusqu'à 22h, puisque l'émission suivante ne peut pas avoir lieu. Et nous allons parler maintenant de la comptabilisation du chômage et du chômage des femmes. Alors, nous allons parler tout de suite maintenant des états généraux des chiffres du chômage qui ont eu lieu le 29 mai dernier. Et nous allons essayer de voir quelles sont les conséquences de tout ce qui a été dit dans ces états généraux pour les femmes.
Donc, depuis la fin de l'année 2006, il y a un collectif qui s'est créé qui s'appelle Autres chiffres des chômages, du chômage, qui s'appelle donc ACDC, qui a été créé par des chercheurs, des syndicalistes de la NPE, des statisticiens, principalement aussi des statisticiens et des associations de chômeurs, et donc qui a remis en cause sérieusement ce qu'on faisait déjà depuis pas mal de temps, mais qui a remis en cause les chiffres du chômage, ou tout du moins les références par lesquelles on prenait en compte le calcul du chômage. Donc, on avait fait pendant tous les mois une conférence. Les mois qui ont suivi le mois de décembre, on avait fait une conférence de presse qui chaque mois dénonçait un autre moyen de calcul et mettait en lumière nos constats qui remettaient en cause ce type de calcul. Et donc on n'a pas fini de réfléchir sur la question, mais on a jugé utile de faire au mois de mai dernier les états généraux et essayer de dénombrer des propositions concrètes. Donc on a fait le constat que le système était un système à bout de souffle et qui ne prenait pas en compte la réalité de l'emploi actuel, où il y avait beaucoup de chômeurs en CDD, il y avait beaucoup d'emplois précaires qu'on appelle les emplois inadéquats, puisque les gens sont obligés d'accepter puisqu'il y a un volant énorme de CDD qui sont proposés aux chômeurs, ou alors que les chômeurs sont obligés d'accepter de faire de l'intérim depuis des années alors qu'ils en ont pas tellement envie. Donc nous on a remis en cause les données du
gouvernemental.
Gouvernemental, on a remis en cause les moyens de calcul et on a fait le constat que le système statistique était utilisé à contre-emploi, que le suivi mensuel était factice et source de confusion, qu'il y avait des réformes qui étaient absolument nécessaires et qu'il fallait placer l'enquête emploi établie par la NPE au cœur du dispositif.
L'enquête emploi est celle qui est faite par l'INSEE, parce que le gouvernement s'appuie sur les données de la NPE pour dire qu'il y a une très forte baisse du chômage depuis 2004.
Oui, l'enquête.
Et toute la presse s'est dépêchée de reprendre ces chiffres, puisque on aurait 8,2% de chômage actuellement selon les données de la NPE. Mais en fait, si on regarde d'autres enquêtes comme les enquêtes emploi de l'INSEE, on trouve une contradiction totale, puisqu'en réalité, dans les états généraux, on a cité le chiffre de 9,6% de chômeurs selon l'enquête emploi. Bon, l'enquête elle-même n'a pas été publiée cette année, mais il semble bien qu'on ait une stabilité par rapport à 2005, donc il n'y a pas eu de réel changement, d'autant plus qu'on sait qu'il n'y a pas eu beaucoup de création d'emplois en termes de postes. Donc ce sont les diminutions qui ont lieu au niveau des listes de la NPE ne correspondent pas avec des augmentations effectives du nombre de personnes qui sont en emploi, ce qui est quand même bizarre. Voilà.
Oui, malgré les effets d'annonce du plan Borloo, on sait que ça n'a pas donné l'effet d'annonce de Monsieur Borloo qui prétendait qu'on allait avoir un gros boom d'emplois créés. Ça a été de la poudre aux yeux. On le sait que ça a été de la poudre aux yeux. Donc, il faut mieux utiliser les données administratives qu'on peut avoir à la portée de la main, et c'est là que les statistiques de l'UNEDIC aussi doivent être mieux utilisées pour fournir des indicateurs qui soient plus fiables. Donc d'ailleurs le gouvernement a été obligé de revoir sa copie, c'est-à-dire qu'il est prévu qu'il y ait effectivement, puisque ça fait un gros clash du fait que l'indicateur de l'INSEE a été repoussé à la fin de l'année 2007, ils ont été obligés de parer puisque nos conférences de presse ont eu un assez grand retentissement au niveau national. La presse s'est beaucoup intéressée à ce qu'on disait, et donc le gouvernement est obligé de revoir sa copie et de revoir les indicateurs, puisque parmi les 8 catégories de demandeurs d'emploi qui existent, le calcul est surtout centré sur la catégorie 1. Mmh. Et la catégorie 1, c'est des chômeurs qui sont immédiatement disponibles à la recherche d'un emploi à durée indéterminée à temps plein. Alors que l'emploi s'est énormément dégradé, et que notamment si on se réfère à la situation de l'emploi des femmes, on sait très bien que les femmes, si on doit revenir à la 4, elles sont classées en dehors de la catégorie 1.
Beaucoup de femmes,
oui, c'est vrai. Elles sont classées dans la catégorie 2 et 7. Alors, comme les auditeurs ne doivent pas connaître ces oui. classifications oui. par cœur, pas plus que moi, je les connais par cœur, je lis mon document. Et donc, la catégorie 2 et 3 parlent de demande d'emploi à temps partiel et de demande d'emploi à durée déterminée, saisonnier, temporaire. Mm-hmm. Mais généralement, elles sont pas prises en compte dans le décompte. Elles sont d'ailleurs pas prises en compte du tout dans l'analyse du chômage.
Oui, c'est-à-dire que le nombre officiel de chômeurs est calculé en prenant uniquement la catégorie numéro 1.
Enfin, c'est celui, disons, c'est le chiffre médiatisé, plus exactement. Oui. Hein. C'est le chiffre médiatisé qui est conservé, et donc c'est celui qui mensuellement est brandi comme un étendard. En fait, quand même, c'est les catégories 1, 2, 3 théoriquement qui sont prises en compte. Mais la médiatisation, vraiment, c'est devenu le chiffre phare comme ça qui s'applique sur la catégorie 1 uniquement.
Et Sylvette, si on prend les catégories 1, 2, 3, selon toi, il y a quel pourcentage de femmes dedans?
Je n'ai pas pris mes petits papiers. Mais ce qu'on peut voir quand même, c'est que quand on prend l'ensemble des chômeurs, des chômages invisibles, c'est-à-dire les chômages invisibles, ça avait été la première note à CDC où on avait vu ça, c'est-à-dire il y avait les chômeurs des DOM, il y avait les demandeurs d'emploi temporaires ou à temps partiel, les catégories 2-3, les dispensés de recherche d'emploi, les personnes de plus de 57 ans, les chômeurs en activité réduite qui sont donc les catégories 6-7-8,
C'est des gens qui ont travaillé plus de 78 heures dans le dernier mois.
C'est ça, et qui sont de plus en plus fréquents, parce que de plus en plus, c'est pour ça que on a du mal à parler de chômeurs uniquement, parce que emploi et chômage se mêlent vraiment dans effectivement de l'emploi dégradé, de l'emploi inadéquat. Et si on ajoute encore la catégorie des demandeurs d'emploi non disponibles, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà un emploi et qui en cherchent un autre, en sachant que dans cette catégorie-là ont été versées toutes les personnes qui sont en contrat aidé, ce qui n'est pas rien, on a à ce moment-là un chiffre du chômage des femmes qui est différent de celui de la statistique officielle du chômage. Dans la statistique officielle du chômage, elles sont un petit peu moins nombreuses que les hommes, et quand on prend l'ensemble de ces chiffres, elles représentent plus de 60% des demandeurs d'emploi.
Donc c'est
y a un écart.
Oui. Moi j'ai vu que dans les catégories 2 et 7, il y a 85% de femmes. Ce sont des personnes en réalité à qui les agents des services de la NPE demandent si elles seraient prêtes à accepter un travail à temps partiel. Et en fait, en réalité, bien souvent, ils les inscrivent d'office dans la catégorie des personnes qui recherchent un travail à temps partiel. Donc elles se retrouvent en catégorie 2 au lieu d'être en catégorie 1. Alors que si on leur proposait un emploi à temps plein, certainement qu'elles le prendraient.
En fait, ça ne se fait pas tout à fait comme ça. Mais en fait, disons que dans la discussion, ça peut s'amener de cette façon-là. Ça peut être la question, peut être accepteriez-vous de prendre un emploi à temps partiel? Et en fonction du métier, par exemple, si on prend les caissières, qui pour beaucoup travaillent à temps partiel, eh bien, elles peuvent être effectivement, si elles disent oui, c'est plus réaliste, être classifiées dans cette catégorie.
Mais si elle a deux emplois à mi-temps, c'est toujours considéré des emplois à mi-temps.
C'est toujours considéré comme des emplois à mi-temps. Et alors souvent, on a de plus en plus, puisqu'on a de plus en plus de personnes qui travaillent, de chômeurs qui travaillent, un petit peu dans le mois, enfin, je veux dire, pour s'en sortir. Donc on a de plus en plus de personnes qui disent « je voudrais compléter mon mi-temps ». Mais à l'origine, ces personnes, ce qu'elles recherchent, c'est un contrat à temps plein.
Oui. Mais en même temps, peut-être aussi préfèrent-elles, dans le doute, conserver le peu qu'elles ont, plutôt que de se lancer carrément dans autre chose.
C'est vrai, mais bon, c'est souvent des périodes très... Il y a eu une étude récemment faite par le CEREC sur les femmes de chambre, particulièrement. Mmh. Et c'est un exemple extrêmement intéressant, les femmes de chambre dans l'hôtellerie, parce que elles ont d'abord des emplois généralement à temps partiel, précaires, elles mettent très très longtemps avant de pouvoir avoir un emploi stable. C'est-à-dire qu'elles restent dans cette dépendance à l'employeur où on leur renouvelle de mois en mois leur contrat à durée déterminée. Et elles courent derrière avec l'espoir d'avoir un emploi à temps plein. Mais la pénibilité et un contrat stable. Mais la pénibilité du travail est telle qu'une fois qu'elles ont obtenu cet emploi stable, eh bien généralement, elles ne peuvent pas le conserver longtemps parce que au niveau dorsal, soulever les matelas, se pencher pour nettoyer les baignoires, etc. Et tout ça avec une intensification du travail qui est extrêmement élevée. C'est 20 minutes pour faire une chambre. Il faut vraiment aller vite. Donc ça elles retombent, elles sortent à ce moment-là de l'emploi pour aller généralement vers l'inaptitude.
Oui. Alors il y a le fait aussi, par exemple, que les personnes qui travaillent en contrat à durée déterminée ou à temps partiel, lorsqu'elles sont inscrites à la NPE et qu'elles ne peuvent pas se présenter à une convocation, on peut facilement les radier en fin de compte.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est pour ces personnes, théoriquement, le suivi mensuel personnalisé peut théoriquement se faire par téléphone. Mais bon, encore faut-il qu'elles aient pu annoncer leur situation, etc. Ça provoque beaucoup de découragement, surtout.
Oui. Alors donc, on a également beaucoup de personnes qui ne s'inscrivent pas ou plus du tout à la NPE. Ce sont en particulier certains RMistes, des personnes qui ne peuvent plus avoir d'indemnité de chômage, certaines personnes qui sont dispensées de recherche d'emploi, handicapées, pré-retraitées. Et puis, il y a aussi la situation des femmes qui sont chez elles, dont beaucoup souhaitent travailler, on le sait, mais néanmoins, elles sont contraintes de rester chez elles car elles n'ont pas forcément de solution de garde pour leurs enfants. Et là, on a le fameux congé parental ou l'allocation parentale d'éducation qui leur est proposée, qui concerne un très grand nombre de femmes aujourd'hui et qui permet en quelque sorte de les faire sortir au moins momentanément de la NPE et du marché du travail.
Et du marché du travail, oui, tout à fait. Oui. Oui.
Non, terminé. Mais j'ai une petite statistique intéressante aussi, mais terminé.
C'est un vrai piège, ce congé parental d'éducation. Alors, bon, aujourd'hui, c'est un congé parental d'éducation. Hein. Il est ouvert aux hommes comme aux femmes. De fait, pour le moment, peu d'hommes le prennent, c'est souvent les femmes, c'est souvent des femmes qui ont justement des emplois plutôt ayant effectivement des emplois précaires ou des emplois mal payés, enfin qui font prendre ça. Et c'est vrai que leur réinsertion professionnelle en général est extrêmement difficile à l'issue de cet emploi.
Oui.
Il y a deux remarques là, des statistiques qui sont au 31 décembre 2005 et qui pointent des disparités qui concernent les femmes. La population a été ventilée en fonction du motif de fin de contrat et qui a précédé l'entrée en indemnisation du sexe et de la tranche d'âge. La démission et la fin de CDD sont plutôt des motifs d'entrée dans le chômage pour les femmes, respectivement de 73,2% et de 58,2%, tandis que l'intérim et le licenciement à motif autre qu'économique sont à l'inverse majoritairement masculins. Donc, naviguent plus.
Alors, ça, c'est très curieux parce que.
Dans des emplois précaires. Oui. Bien que les hommes aussi subissent les difficultés de l'emploi instable, mais les femmes sont toujours.
Oui, mais faut souligner aussi que, d'une part, lorsque les personnes qui démissionnent, elles n'ont pas le droit à des indemnités de chômage.
Exactement.
Et puis que les fins de CDD aussi sont les chômeurs qui sont les moins bien indemnisés. Donc finalement, c'est là où on retrouve des femmes, hein, parce que 73% des personnes qui ont démissionné sont des femmes et 58% des personnes en fin de CDD, on voit très bien que ce sont les catégories qui ont le moins le droit de toucher des indemnités de chômage. Et bon, on comprend aussi, enfin, c'est facile à comprendre que pour un employeur, finalement, il est relativement aisé de pousser une femme à quitter son emploi à cause de, ça peut être à cause de difficultés à concilier les horaires de travail, par exemple, avec sa vie familiale, etc. En tout cas, c'est plus facile que pour un homme, enfin, il me semble.
Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il faut être prudent sur les motifs de licenciement. On s'est aperçu que les motifs de licenciement pour raison autre que raison économique recouvraient dans les faits un grand nombre de licenciements pour raisons économiques, mais qui sont masqués. Et de même, je veux dire, les démissions... on peut pousser effectivement une personne à la démission.
Oui, hein, les femmes ont des difficultés à signaler les problèmes de harcèlement moral ou sexuel au travail. Et donc,
bien entendu, il y a aussi ces raisons-là. Et alors, moi, je constate aussi dans un certain nombre de documents qu'il y a eu depuis début 2005 une très forte diminution du nombre de chômeurs indemnisés.
Tout à fait.
Alors,
bien, il y a eu des réformes de l'UNEDIC, hein, durcissant les conditions d'accès aux indemnités de chômage, en particulier pour les contrats précaires. Hein, et automatiquement, les femmes étant plus souvent en contrat précaire, ça répercute sur elles plus fortement ce non-accès. ce non-accès à l'indemnisation. Et l'absence d'indemnisation se joint là aussi, je veux dire, c'est vraiment quelque chose, des choses qui s'articulent comme ça les unes entre elles, c'est-à-dire que ne plus être indemnisé, ça entraîne aussi beaucoup de radiations de la part des femmes, c'est-à-dire qu'elles ne voient plus l'intérêt.
Oui, c'est pas des radiations,
c'est des
non-inscriptions.
Oui, c'est des radiations au sens de sortie de la liste.
Ça présente beaucoup de tracasseries pour très peu de bénéfices finalement. Mmh. Oui. Donc, moi j'avais quelques données sur les femmes. Au 30 juin 2006, les femmes représentaient 53% des inscrits sur 4 200 000 en comptant toutes les catégories et 57% parmi les non indemnisés. Mmh. Hein, donc, et là, il y a des chiffres qui tiennent compte, en plus des ACEDIC de tous les régimes de solidarité, ASS et AER et autres allocations de solidarité. Donc, en comptant toutes les formes d'indemnité possibles, on arrive à 56% de femmes indemnisées pour 63% des hommes. Et pour ce qui concerne les ACEDIC, le montant mensuel moyen était environ de 1000 euros. Hein, 33 euros par jour. Donc voilà, cela sans compter... juste pour les ACEDIC, je pense. Donc on voit bien que le chômage des femmes est moins indemnisé que les hommes. Enfin, c'est un peu une conséquence à la fois de leur moindre salaire, puisque les salaires des femmes sont quand même, en tenant compte du temps partiel, 27% de moins. Alors donc en tenant compte de l'activité réduite, tout ça, il est logique. En fait, on retrouve la même proportion au niveau des indemnités de chômage. On a 26% d'indemnités de chômage en moins pour les femmes. On retrouve la même chose.
Tout à fait. Ils sont particulièrement pénalisés, les jeunes femmes.
Et
femmes de moins de 25 ans qui trouvent plus difficilement.
Là, il y a une petite remarque là, sur les chiffres de fin 2005. Il y a sur 3 500 000 femmes travaillant à temps partiel, 981 000 souhaiteraient travailler davantage. Donc c'est toujours la contrainte, elles n'ont pas le choix. Elles trouvent que, il y a certaines catégories d'emplois qui leur sont proposées qu'à temps partiel.
Oui, il faut dire qu'il y a 30% des femmes qui travaillent à temps partiel, mais en fait, parmi les offres d'emploi les plus couramment proposées dans certains secteurs, c'est 60% d'offres à temps partiel.
Tout à fait.
Voilà. Et alors, est-ce qu'on pourrait dire un mot au sujet de l'ASS, de la diminution du nombre de personnes en ASS?
Oui. À partir du moment, après le décret du 2 août 2005 sur le suivi de la recherche d'emploi, donc qui a intensifié le contrôle des chômeurs et de la recherche d'emploi, un certain nombre de personnes en ASS ont été... ont été reçus à la DDTE et ont été radiés effectivement rapidement par la suite. Et lorsqu'elles ont voulu se réinscrire, elles n'avaient plus les conditions pour bénéficier de l'ASS, c'est-à-dire qu'elles ne bénéficiaient plus nécessairement des 5 ans d'activité professionnelle dans les 10 dernières années.
Bien entendu. Donc c'était tout l'intérêt de la chose, parce que, étant donné qu'ensuite le RMI, le versement du RMI a été décentralisé au niveau des régions, c'était les régions qui prenaient en charge le RMI, donc c'était autant de frais en moins pour l'État, quoi.
Oui.
Ouais, c'était... Et donc, Yvonne, toi, tu...
Ouais, franchement, vu mon texte, il n'y a pas suffisamment de temps.
Alors, je parlais un peu de la situation des femmes en Grande-Bretagne.
Oui, justement, mais le problème, c'est que je pense qu'il y a un élément fondamental chez nous, c'est le fait que les agences des intérims sont très, très puissantes chez nous. Donc, évidemment, vous avez une situation... Comme, je ne sais pas si Catherine l'a dit, il y a cette mélange chômage, travail précaire, et puis bon, ça tourne comme ça chez nous maintenant. Hein. Et puis donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une situation où le pauvre chômeur, il est obligé d'aller à l'impayeur au moment où il perd son travail ou c'est la fin de son contrat. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il retrouve un travail et puis en moyen, on dit en moyen chez nous que le chômeur revient
13 semaines après. Donc, franchement, cette situation est plus grave. Pour les chômeurs chez nous.
Oui, ce sont des emplois de courte durée qui se terminent par un retour.
Oui, mais justement, il y a une directive européenne concernant les agences d'industrie qui oblige une sorte de pause entre les contrats. Donc, on peut avoir 4 ou 5 contrats défilés, mais après, il faut une pause. Alors, évidemment, les pauvres chômeurs, pendant cette pause obligatoire, ils doivent pointé. Et puis, bon, aussi, un autre problème qu'on a, c'est pour des mères de famille. Alors, ça, c'est vraiment hallucinant. Une mère de famille, elle est obligée de se rendre disponible ce 48 heures pour répondre à une offre d'emploi éventuelle même. Hein. Donc, il y a cette pression que les gens, dès que il se prend un pieu, il faut qu'il soit obligé dans les 48 heures.
Totalement disponible, quoi.
Totalement disponible. Donc, la pression, c'est énorme.
Oui. Donc, si elle n'a pas de solution pour garder ses enfants, elle va être systématiquement radiée.
Elle va être refusée. Elle va être quasiment refusée. Elle ne peut pas toucher les allocations de chômage. Mm-hmm. C'est une condition.
Mm. Oui, bien sûr. Alors, on pourrait peut-être parler maintenant un tout petit peu de la question de l'égalité professionnelle. Est-ce que il y a eu un accord national signé par la NPE et avec le secrétariat d'État à la parité et aux droits des femmes. Alors, ça remonte à quelle époque exactement?
Janvier 2005.
Janvier 2005.
Un accord cadre national avec le ministère de la parité et de l'égalité professionnelle. Mmh. Et donc, cet accord avait trois objectifs principaux. Renforcer les moyens de lutte contre le chômage des femmes. Favoriser l'insertion des femmes par des emplois durables sur le marché du travail et promouvoir l'égalité professionnelle dans tous les secteurs. Il a été donc cet accord a été renouvelé jusqu'en fin 2008. Enfin, il est toujours avec une liste d'indicateurs. Je dois dire que nous avons une faible visibilité sur ce qui en est fait. Et c'est vrai que lorsque l'on voit, par exemple, enfin, dans cet accord, il y avait faciliter l'accès des femmes à l'emploi en levant des difficultés spécifiques liées aux frais de garde des enfants. Et donc une aide spécifique, l'aide à la reprise d'activité pour les femmes qui reprenaient un emploi ou qui entraient sur une formation quand elles avaient un enfant de un ou plusieurs enfants de moins de 6 ans. Or, on a vu dans bien des départements le budget de cette aide se réduire. Et puis on a été dans l'impossibilité de la verser à toutes les personnes qui en auraient eu, enfin qui auraient eu le droit à cette aide. Hein. Ça s'est vu à plusieurs reprises.
Il y a également un gros problème pour ce qui concerne l'égalité salariale, c'est celui de la mixité des emplois. On dit toujours qu'on va aller vers plus de mixité des emplois, mais en fait, il semble qu'on n'y arrive pas tellement. Alors bon, il y a quelques secteurs, paraît-il, où les femmes font des travaux maintenant qui sont physiquement lourds et ou bien travaillent la nuit dans l'industrie, sur les chaînes de l'automobile ou chez les éboueurs, les nettoyeurs de la ville de Paris, par exemple. Mais c'est vrai qu'en dehors de cela, si on prend des secteurs comme l'informatique, des secteurs de haute technologie, bon, on voit très peu de femmes dans ces secteurs-là. Donc c'est le problème, en fin de compte, c'est toujours le même. C'est comment développer la mixité des emplois et est-ce qu'on a les moyens pour le faire et surtout quels moyens on a pour davantage former et donner des formations dans ce sens.
On en doute puisque depuis la loi, notamment la loi Borloo, et même avant déjà on avait des difficultés en tant que chômeur à avoir accès à la formation. Et on demandait de plus en plus souvent depuis pas mal d'années que le chômeur participe au financement de sa... On demandait une quote-part du chômeur qui pouvait des fois être assez conséquente pour participer au financement de sa formation. Mais depuis le plan Borloo, on a vu surtout la réforme du l'UNEDIC qui a lieu en août 2005. On a vu que les chômeurs avaient de moins en moins de possibilités de trouver des formations de longue durée. Il n'y en a presque plus. Il y a les formations qui sont accessibles aux chômeurs se trouvent surtout être des formations de courte durée qui sont des formations destinées aux métiers en tension. C'est-à-dire que c'est souvent des formations d'une durée de 4 mois. Et donc on a supprimé des dispositifs maintenant les formations, il y a une sous l'effet de la décentralisation, les formations ce sont les régions qui financent ces plans de formation, et des dispositifs tels que l'AFR et les dispositifs CIF qui permettaient des formations longues ont été supprimés, et le dispositif CIF qui permettait des formations aux femmes était supprimé aussi. Donc les chômeurs ont de moins en moins de possibilités de formation.
Bien, alors nous arrivons maintenant en fin de cette émission. Donc je vous rappelle ces annonces pour les 5, 6 et 7 juillet. Le festival de la radio Fréquence Paris Pluriel au métro Porte de Paris, salle de la ligne 13, 12 place de la Résistance à Saint-Denis. Et puis également, je rappelle les rendez-vous pour les chômeurs qui éprouvent des difficultés vis-à-vis des services de l'emploi, les permanences qui ont lieu tous les lundis de 14 à 16 heures à la Bourse du Travail, 3 rue du Château d'Eau, donc parade, permanence, anti-radiation. Voilà. Donc,
l'après-midi, le temps. C'est à 14 heures.
Ah oui, de 14h à 16h.
Non, elle l'avait dit.
Voilà, donc cette émission est maintenant terminée. Je vous dis bonsoir.